Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le chef de l'ONU appelle à éviter une situation hors de contrôle en Syrie. La tension entre Washington et Moscou est encore montée d'un cran hier sur d'éventuelles représailles à l'attaque chimique présumée près de Damas, au cœur de nouvelles réunions aujourd'hui.
La Syrie, la grève à la SNCF, l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, les réformes sociales et économiques, l'Élysée assure que le chef de l'État va répondre à toutes les questions dès le journal de 13h aujourd'hui sur TF1, la troisième interview télévisée depuis son élection il y a près d'un an.
Tous les accès à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont bloqués ce matin par les gendarmes. La journée d'hier a été marquée par de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et les zadistes. Nous y reviendrons dans un instant. Le gouvernement met une dernière main à la feuille de route budgétaire qu'il va adresser à la Commission européenne. Un programme de stabilité qui devrait rassurer Bruxelles, même si les marges de manœuvre sont étroites. C'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, Catherine, la question du jour, avocat magistrat greffier dans la rue. Pourquoi le projet de réforme de la justice cristallise-t-il la colère ? On posera la question à l'avocate Laurence Roch.
La surenchère verbale sur le plan diplomatique en attendant une éventuelle escalade sur le plan militaire. Après les tweets va-t-en-guerre hier matin de Donald Trump avertissant la Russie de l'arrivée de missiles américains qui sont, je cite, « beaux, nouveaux et intelligents ». Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et aime cela, a encore tweeté le président des États-Unis. Moscou a de son côté annoncé le déploiement de sa police militaire dans la ville syrienne de Douma, près de Damas, là où au moins 48 personnes seraient mortes de gaz toxique le week-end dernier, selon les casques blancs syriens. Intox, manipulation, répondent les autorités russes. Elles restent déterminées à abattre tout missile américain qui viserait des cibles syriennes, même si Vladimir Poutine dit espérer que la raison l'emportera. Correspondance à Moscou de Jean-Didier Rovoin.
Hier soir, lors d'une conversation téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Vladimir Poutine lui a demandé de s'abstenir de toute action qui déstabiliserait davantage la situation en Syrie. Si par ailleurs le président russe s'est dit préoccupé par l'état du monde, il n'a pas contredit son ambassadeur au Liban pour qui la Russie abattra les missiles américains qui prendraient pour cible la Syrie, fussent-ils intelligents comme l'a tweeté Donald Trump. Tout porte à croire que Moscou ripostera en cas d'attaque, comme l'explique Konstantin Kossachev, président du comité des affaires étrangères de la chambre haute du Parlement russe, interrogé par la télévision publique.
Si les armes utilisées par les États-Unis touchent d'une quelconque façon les intérêts de la Russie, je suis sûr que la réponse sera immédiate.
En Syrie, l'armée russe a déployé des systèmes de défense anti-aérien dernier cri S-400 et de génération précédente S-300, couplés à des moyens mobiles de défense aérienne Pantsir et Thor M1. Selon les médias russes, elle dispose également des moyens de brouillage électronique suffisants pour aveugler navires et missiles américains. Vladimir Poutine compte sur la victoire du bon sens pour ne pas utiliser ses armes, mais au vu des tensions récentes, rien n'est moins sûr.
Et si Donald Trump semble déterminé à passer à l'action après l'attaque chimique sur la ville de Douma, qu'il impute au régime de Bachar al-Assad, le Pentagone préfère, lui, temporiser. Grégory Phillips.
Étrange diplomatie américaine où le patron du Pentagone, le secrétaire à la défense, Jim Mattis, temporise et affirme que les États-Unis sont encore en train d'évaluer les renseignements en provenance de Douma afin de déterminer qui est à l'origine du massacre. Mattis ajoute néanmoins, nous avons sur la table plusieurs options militaires. Et puis d'un autre côté, il y a les tweets matinaux du président Donald Trump qui est beaucoup plus affirmatif et menaçant. Que la Russie se tienne prête car nos missiles arrivent, ils sont beaux, nouveaux et intelligents et le président américain s'adresse directement aux Russes. Vous ne devriez pas vous associer à, je cite, un animal qui tue avec du gaz, qui tue son peuple et qui aime ça. Là, Donald Trump parle évidemment de Bachar al-Assad. Quoi qu'il en soit, les messages matinaux de Trump laissent penser que des frappes américaines sur la Syrie sont imminentes, mais pour l'instant, hormis ces tweets, il n'y a pas de déclaration officielle du président, pas de prise de parole prévue, pas d'allocution, mais tout ceci est évidemment extrêmement mouvant et la crise peut gagner ou perdre en intensité dans les prochaines minutes ou prochaines heures.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. À Londres, une réunion d'urgence du gouvernement de Theresa May aujourd'hui afin de discuter de la réponse à apporter aux événements en Syrie. Hier déjà, la première ministre britannique a ordonné à des sous-marins de se mettre à portée de tir de la Syrie. Selon le quotidien Daily Telegraph, la Grande-Bretagne a fait le nécessaire pour être en mesure de tirer des missiles de croisière Tomahawk contre des cibles militaires en Syrie. Et c'est en accord avec les alliés américains et britanniques que la France annoncera dans les prochains jours une une décision sur la Syrie, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron, assurant également que les bombardements viseraient les capacités chimiques du régime de Damas. La prudence est de mise à l'Assemblée nationale, quel que soit le bord politique, de l'insoumis Éric Coquerel au LR Éric Ciotti, en passant par le socialiste Stéphane Le Foll ou la députée En Marche Sonia Crimi. Je vous propose de les écouter.
Donald Trump est un pyromane. Donald Trump est très très inquiétant et ça fait longtemps qu'on le sait. Ce qui m'inquiète, c'est que Macron a pas l'air de s'en rendre compte. Si on a comme objectif la paix, ça doit être la diplomatie qui parle. Et la France doit jouer ce rôle-là.
Attention à entrer dans un conflit qui nous dépasserait très vite. Ne pas être instrumentalisé. Ne nous surestimons pas. Donc que M. Trump et M. Macron soient responsables dans leur action.
Les questions qui sont posées d'une intervention sont légitimes. Dans la mesure où ceux qui devraient accepter une enquête transparente la refusent. Ceux qui ne le veulent pas, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Et ça ne peut pas rester impuni.
La violence n'emmène qu'à la violence. Je crois beaucoup aux discussions, aux solutions diplomatiques. Je crois beaucoup à l'action politique de notre président. Si vous me posez la question à moi sur on y va, on frappe ou pas, ma réponse est non.
Des propos recueillis par Aurélien Colli.
Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h06, c'est la suite du journal de Catherine Dutu. La Syrie, mais plus largement les réformes menées par l'exécutif, c'est tout cela qu'Emmanuel Macron veut expliquer au journal de 13h de TF1 de Jean-Pierre Pernaut.
Le chef de l'État s'exprimera aujourd'hui depuis l'école primaire de Berduy, un petit village normand. L'occasion de se défaire une fois de plus de l'image de président des villes que l'opposition veut coller au président. Et c'est précisément sur ce sujet, les territoires ruraux qui se sentent abandonnés de l'exécutif. C'est sur ce sujet qu'Hervé Morin, le président de l'Association des régions de France et président de la région Normandie, interpelle Emmanuel Macron.
Il faudrait qu'ils comprennent que tout ne vient pas de l'État. On a besoin d'avoir des politiques adaptées aux territoires, parce que les territoires sont source d'innovation, d'agilité. J'ai envie de lui dire, faites confiance aux collectivités. Considérez que la politique de la formation professionnelle, il faut qu'elle soit pilotée par un seul et unique acteur que sont les régions. Que un certain nombre de politiques de proximité sur le logement doivent être conduites par les communes ou les départements. Sur beaucoup de sujets, ce sont les collectivités qui font. Le président de la République va probablement évoquer le très haut débit. Et qui met le plus d'argent sur le très haut débit. Ce sont les collectivités, c'est pas l'État. Ce qui est clair, c'est que le président de la République a un sujet avec les territoires, un discours totalement absent sur les territoires, et il va en falloir des JT de 13 heures pour compenser ça. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à construire, parce que c'est ce que nous souhaitons, on est bienveillant avec le président de la République. Mais on peut pas réussir tout seul. C'est ça le message que je voudrais lui faire passer.
Hervé Morin, président de l'Association des régions de France, il répondait à Estelle Schmitt. Tous les accès à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sont bloqués ce matin par les gendarmes au quatrième jour de l'opération d'expulsion. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a écarté d'ailleurs toute pause dans ses expulsions. Et ce mercredi a été marqué par de nouveaux heurts entre les forces de l'ordre et les occupants de la ZAD. Cocktails Molotov, jets de pierre du côté des zadistes, gaz lacrymogène et grenades assourdissantes du côté des gendarmes. La charge a été donnée après le pique-nique citoyen organisé dans l'un des champs du site. De nombreux anciens zadistes y participaient. Ils ont été blessés, comme le raconte cette opposante.
On s'est approchés là pour voir un peu ce qui se passait. Ils ont envoyé des bombes lacrymogènes et des bombes de désencerclement. Regardez le copain, il saigne de l'oreille et la copine, elle est blessée. Et on est quoi ? On est des terroristes, c'est ça ? C'est des armes de guerre qu'ils nous envoient. C'est quoi ça ? Ça s'appelle des armes de guerre, ce qu'ils sont en train de faire. C'est n'importe quoi. C'est d'une violence inouïe. Et après, on va dire que ce sont les zadistes qui sont violents. Et vous voyez bien qu'on est pacifique, qu'on est simplement là, on a fait un pique-nique. Et les copains, regardez, ils pissent le sang. Et ça coûte en plus la peau des fesses à la société. À la fois tout ce déplacement, l'hélicoptère et toutes ces armes. C'est honteux, c'est honteux. Moi, j'ai mal à la France, comme on dit. Moi, j'ai honte.
Mais le directeur général de la gendarmerie, le général Lisuré, justifie, lui, la manière dont ces hommes ont procédé.
Les grenades qui sont lancées sont des grenades qui visent à défendre les gendarmes. Je rappelle qu'on a quand même eu à ce stade 28 blessés, dont 14 par traumatisme sonore. Nous nous contentons de nous défendre. Vous avez pu observer qu'à aucun moment les gendarmes ne prennent l'initiative de l'affrontement. La violence n'est pas de notre côté, la violence est du côté des opposants qui systématiquement, d'ailleurs même avec des frondes extrêmement dangereuses, on a eu un traumatisme crânien, donc très clairement les engins dangereux me semblent être plutôt de l'autre côté que de l'autre côté. D'autant que de l'autre côté nous n'avons qu'une majorité de gens qui n'ont rien à faire ici, qui sont arrivés récemment et ne viennent que pour casser du gendarme. Nous continuons notre mission avec détermination, avec conviction, avec méthode.
Le général Lizuré au micro, France Bleu Loire-Océan, Dan Patinec. Le débat à l'Assemblée nationale se poursuit sur la réforme ferroviaire avant un vote mardi prochain. Les députés ont adopté cette nuit l'application de tarifs sociaux par toutes les entreprises ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du rail. Le principe donc des tarifs sociaux pour les familles nombreuses, les personnes handicapées serait étendu à l'ensemble des opérateurs. Alors que se profile le troisième épisode de grève perlée à partir de 20h ce soir et jusqu'à dimanche matin, les cheminots semblent toujours aussi déterminés à contester la réforme de la SNCF et le gouvernement qui comptait amadouer les syndicats réformistes n'y est pas parvenu pour l'heure, Annabelle Grelier.
Il nous faut des garanties précises, pas du baratin, réclamait hier le secrétaire général de l'UNSA, Luc Berille. Nous ne sommes ni découragés, ni résignés, mais combatifs, volontaires et déterminés, assurait à son tour Roger Dillen-Seger de l'UNSA Cheminot. Même ton à la CFDT, qui estime que pour sortir du conflit, il faut des avancées. Or, depuis lundi, c'est surtout la réforme du gouvernement qui avance. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté l'article 1 et l'article 2 du projet de loi, deux articles explosifs qui autorisent l'exécutif à transformer par ordonnance le cadre juridique de la SNCF, à supprimer le statut des cheminots pour les nouvelles recrues et l'ouverture à la concurrence. La procédure législative suit donc son cours et les deux organisations dites réformistes que La République En Marche espérait amadouer ne voient aucun engagement du gouvernement qui répondrait à leurs revendications. Il y a bien quelques concessions qui pourront être faites sur les conditions du transfert des salariés de la SNCF vers de futurs concurrents, le fameux sac à dos social, mais tout ça reste bien mineur par rapport aux demandes syndicales. La CFDT dit avoir proposé une vingtaine d'amendements sur le texte, resté à ce jour lettre morte, quand l'UNSA réclame des précisions sur la reprise de la dette éventuelle par l'État, qui ne figure même pas dans le texte de loi. L'intersyndicale est donc toujours soudée. La CGT et Sudrail sont même prêtes à durcir le mouvement. Si le gouvernement ne semble toujours pas les croire capables de tenir sur le long terme, le montant de la cagnotte de soutien aux grévistes lancée fin mars par une trentaine d'artistes et d'universitaires aurait pourtant de quoi le faire douter. Elle a atteint hier soir les 660 000 euros.
L'Union solidaire se joint à la CGT pour la journée du 19 avril prochain. Appel à la grève et aux manifestations auxquelles les principaux syndicats n'ont à ce jour pas prévu de s'associer. Mea culpa, bis repetita. Après le Sénat, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a été entendu par la Chambre des représentants aux États-Unis. Le créateur du réseau social est auditionné après les révélations qui ont visé Facebook ces dernières semaines. La perte de données personnelles de 87 millions d'utilisateurs influencés pour dans le cadre de la campagne présidentielle américaine de 2016 en faveur de Donald Trump. Devant les élus de la Chambre des représentants, Mark Zuckerberg a jugé qu'une régulation d'Internet était désormais inévitable. Des soupçons d'opérations frauduleuses chez Samsung en Corée du Sud à la suite d'une erreur commise par l'un des traders de la filiale financière de l'entreprise. Un bonus sous forme d'action a été versé à chaque employé pour un montant équivalent à 86 milliards d'euros. C'est 40 000 fois plus que ce qui était prévu. Les employés ont pu revendre ces actions avant que Samsung ne se rende compte de son erreur colossale. Les autorités de contrôle des marchés financiers s'interrogent comment le conglomérat sud-coréen a-t-il pu valider des demandes d'encaissement pour des titres qui n'existaient pas. Une enquête a été ouverte.